Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 31e dimanche. Étant entré, Jésus traverse la ville de Jéricho. Survint un homme appelé du nom de Zachée. Celui-ci est un chef des collecteurs d'impôts, et celui-ci est riche. Il cherche à voir qui est ce Jésus. Et il ne peut pas à cause de la foule, parce qu'il est petit de taille. Il se met à courir au-devant et monte sur un sycomore, pour le voir parce qu'il doit passer par là. Lorsqu'il arrive en ce lieu, Jésus lève les yeux et lui dit
« Zachée, descends vite, car aujourd'hui il me faut demeurer dans ta maison. »
Il se hâte de descendre et se réjouit de l'accueillir. En voyant cela, tous murmurent et disent
« C'est chez un pécheur qu'il entre faire halte. »
Debout, Zachée dit au Seigneur
« Voici, Seigneur, la moitié de mes biens je la donne aux pauvres. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, « je rends le quadruple. »
Alors Jésus lui dit,
« Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maisonnée, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà une parabole actée. Le petit homme qu'est Zachée nous est familier et de plus sympathique. Mais en quoi ce petit fait très moral nous intéresse-t-il aujourd'hui?
Bien, souvenons-nous des trois paraboles que l'on pourrait appeler les paraboles du perdu retrouvé. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la pièce de monnaie perdue, et la parabole du fils cadet perdu pour son père. Le refrain de ces paraboles est le même que celui qui va clore le récit de Zachée. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu.
Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvé, ma brebis qui était perdue. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il fallait se réjouir car ton frère était perdu et il est retrouvé.
Notons-le bien, au chapitre 15 de Luc, ces trois paraboles sont dites à l'adresse des pharisiens qui murmurent à propos de Jésus « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Et le texte signale « Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. » Eh bien, notre récit de Zachée est l'actualisation vécue de ces paraboles. Notons aussi que tout cela se situe à l'approche de l'entrée à Jérusalem. Jésus rappelait une fois de plus que ce voyage sera le terme de sa mission.
Prenant les douze avec lui, Jésus leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages et aux crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront, et, le troisième jour, il ressuscitera. »
À l'approche de Jéricho, Jésus a aussi guéri un aveugle de sa cécité. Cet aveugle est devenu disciple. Il se met à la suite de Jésus en glorifiant Dieu, nous dit le récit de Luc. À la cécité physique de cet aveugle correspond la cécité spirituelle de Zachée. Les paraboles de Jésus se trouvent donc réalisées dans le concret de la vie des gens. Les gestes seront encore plus parlants que les paraboles. Eh bien, regardons ce qu'étaient, au temps de Jésus, les collecteurs d'impôts. Comment se fait-il que les récits évangéliques les placent si souvent en compagnie de ceux qu'on nomme les pêcheurs publics? Des pêcheurs qui ne sont pas les pêcheurs de poissons, mais les voleurs notoires connus de tous, et les prostituées et les adultères, tous ceux qui ne peuvent plus fréquenter la synagogue.
Les pharisiens et leurs scribes murmuraient, disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Le collecteur d'impôts, se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, pardonne à moi le pécheur. »
Chez Matthieu, ces collecteurs d'impôts sont assimilés aux prostituées.
Amen, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le règne de Dieu.
Ces collecteurs sont souvent appelés publicains. Alors qui sont-ils? Eh bien, des gens qui se sont mis au service des Romains. Les Romains qui sont, bien sûr, des étrangers qui ont conquis le pays d'Israël et qui exploitent la population. Eh bien, ces Romains attribuaient aux enchères la charge de lever les impôts. Ceux qui le pouvaient faisaient des offres, et bien sûr, c'était l'offre la plus élevée qui était acceptée. Les gens choisis devaient s'engager à verser aux Romains le montant total qu'ils avaient proposé. Il fallait donc être riche, très riche parfois, pour soumissionner. Ensuite, ceux qui étaient choisis collectaient la population et ils le faisaient par tous les moyens, fixant eux-mêmes les sommes dues. Pour rembourser la somme à laquelle ils s'étaient engagés, mais aussi pour s'assurer une bonne marge de profit pour eux-mêmes, les publicains se laissaient souvent aller à bien des exactions, violences, chantage, pressions de toutes sortes. L'écrivain romain Cicéron dit que les injustices des publicains étaient encore plus pénibles que les impôts eux-mêmes. On se souvient que Jean le Baptiste avait conseillé aux publicains qui étaient venus pour se faire baptiser de ne rien exiger au-delà de ce qui leur était fixé. La réputation des publicains était donc lourde, très lourde à porter. Ils étaient vus comme des voleurs, mais aussi comme des traîtres à la nation puisqu'ils travaillaient pour l'occupant. On se souvient que les plus nationalistes des Juifs se demandaient s'il était permis, par Dieu, de payer l'impôt à César qui est un païen. Cette fréquentation des Romains assimilait presque les collecteurs d'impôts à des païens. Ils étaient donc, pratiquement, des excommuniés, des gens impurs. On les refusait aussi comme témoins dans un procès. Les pharisiens les tenaient pour des parias et affirmaient que le repentir et le salut étaient impossibles aux publicains. Eh bien, l'humour de la situation fait que ce publicain en chef porte un nom qui est celui de Zachée, qui veut dire « le pur », celui qui est méritant, un peu comme si on donnait le surnom de philanthrope à un voleur.
Quel motif assez fort a pu pousser ce publicain en chef à vouloir voir Jésus?
Oui, il lui fallait pourtant pour cela vaincre bien des obstacles. Celui d'abord de se mêler à une foule où il devait être connu, et sans doute aussi plus ou moins honni. Celui en plus de devoir monter sur un arbre parce qu'il était petit, et donc de se rendre plus ou moins ridicule. Déjà Luc avait signalé au début du chapitre 15 que les collecteurs d'impôts s'approchaient de Jésus pour l'écouter. La réputation de Jésus, donc, devait l'avoir précédé dans la ville de Jéricho. On devait y parler de ce rabbi qui était tout le contraire des autres rabbis. Lui n'avait pas crainte de fréquenter les collecteurs d'impôts et de leur faire bon accueil et même de partager leur table. Il prétendait même que le ciel était rempli de joie lorsqu'un collecteur d'impôts se repentait. Ce rabbi disait qu'il était l'envoyé de Dieu pour chercher celui qui était perdu. Dans les récits évangéliques, le mot « perdu » ne signifie pas « condamné », mais il qualifie quelqu'un qui s'est égaré, isolé, qui n'est plus à sa place et qui n'a plus sa place dans la communauté. Et s'il n'a plus sa place dans la communauté des fidèles, on considère qu'il ne l'a plus non plus auprès de Dieu. Sauver quelqu'un, c'est donc lui reconnaître qu'il a à nouveau une place dans la communauté. et que Dieu le réhabilite, le reconnaît comme l'un des siens, comme un de ses fidèles, comme quelqu'un qui est de la descendance d'Abraham. Pourquoi Jésus va-t-il justifier son geste de réintégrer Zachée en disant « Celui-là aussi est un fils d'Abraham » ? Eh bien, on sait qu'Abraham est une grande figure pour tout le peuple de la Bible. Sa vie se déroule tout entière sous le signe de la générosité sans mesure de Dieu envers lui. Alors qu'Abraham est un nomade, un homme itinérant, sans terre, Dieu va lui donner un pays. Alors que Sarah, son épouse, n'est plus en âge d'avoir des enfants, Dieu va lui donner d'enfanter Isaac. Eh bien, Abraham ne reçoit pas ses biens parce qu'il les a mérités. Tout ce qui lui est demandé, c'est d'accueillir ce que Dieu lui promet. L'apôtre Paul redira souvent que la confiance en la bonté généreuse de Dieu, c'est cela qui sauve. Et cela sauve aussi bien le juif que le païen. Nous ne sommes pas sauvés, aimés par Dieu parce que nous faisons de bonnes actions, mais parce que nous accueillons son amour, que nous mettons en lui notre confiance. Citons l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains.
Espérant contre toute espérance, Abraham crut, et il devint ainsi père d'une multitude de peuples. Appuyé sur la promesse de Dieu, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par sa confiance et il rendit gloire à Dieu, convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir.
En nommant Zachée fils d'Abraham, Jésus veut montrer que Dieu veut sauver tout humain qui lui ouvre son cœur. Quelles que soient les fautes, le cœur qui s'ouvre à Dieu s'ouvre à l'amour et sauve son âme. Mais on pourrait dire aussi que si Zachée est sauvé, c'est parce qu'il va réparer ses torts. En effet, Zachée s'adressera à Jésus ou aux autres convives en disant « Je vais réparer les torts que j'ai pu commettre en restituant 4 fois plus ». Ce 4 fois, d'ailleurs, c'est selon les normes de la loi de Moïse. C'est ce qu'on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 21.
« Si quelqu'un vole un agneau, là-bas est le vent. » Il devra rendre 4 têtes de petit bétail en compensation de l'agneau.
Et mais c'était aussi les normes de la loi romaine. Donc avant même de donner aux pauvres gratuitement, Zachée répare les injustices qu'il a pu connaître. Mais regardons bien comment est construit le récit. Car c'est bien avant que Zachée ne décide de réparer ses torts que la joie est entrée dans son cœur. Cette joie qui est le signe de la présence de Dieu. Comme dans toutes les histoires entre Dieu et l'être humain, c'est Dieu qui a pris les devants. Par Jésus, c'est Dieu qui a l'initiative. Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. On sait tout ce que signifie manger avec quelqu'un pour les gens de la Bible. En effet, partager le pain, c'est partager l'amitié. À travers ce Jésus, qu'il considère comme un prophète de Dieu, Zachée prend conscience que c'est Dieu qui lui a pardonné. Et c'est pourquoi il va accueillir Jésus dans la joie de l'amitié. Ce n'est pas en effet Zachée qui demande à Jésus de venir chez lui. Il sait bien qu'il n'est pas digne d'une telle visite, lui, le publicain, un paria. Non, c'est Jésus qui demande l'hospitalité. Le maître se fait mendiant, pour pouvoir donner sans risquer de blesser celui à qui il donne. On trouve la même attitude de Jésus dans le récit de la Samaritaine. Avant de lui donner l'eau vive de la parole divine, Jésus demande à cette femme un peu d'eau, car il a soif. Quelle humilité et quelle délicatesse. Le rabbi demande à boire à une femme considérée comme une hérétique. Eh bien, c'est la pratique familière de l'amitié qui accueille avant même de donner. Cette délicatesse de Jésus me fait penser à un petit fait africain. Un évêque suisse, ancien exégète, allait tous les ans en Afrique pour donner des cours de Bible. Dans le village où il se trouve, une petite africaine, Fatima, venait chaque matin le saluer. Mais à peine avait-il répondu à son bonjour que le visage de Fatima devenait tout triste et qu'elle repartait, tournant le dos brusquement. Au bout de quelques jours, l'évêque se promet de comprendre ce qui se passe. Aussi, le lendemain matin, avant même de saluer Fatima, elle lui dit « Fatima, il faut que tu m'expliques. Tu viens chaque matin me saluer avec ton beau sourire, mais à peine je t'ai répondu que tu deviens triste et que tu pars toute fâchée. Pourquoi ?» Et Fatima de lui dire « C'est parce que tu me dis toujours, Fatima, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et moi, je voudrais que tu me dises, Fatima, qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui ? Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, a dit ailleurs Jésus. Fatima voulait qu'on lui donne la joie de donner. Jésus voulait donner à Zachée la joie de lui donner l'hospitalité. Il fallait que ce désir de donner de la joie à Zachée fût tellement puissant dans le cœur de Jésus. Car en effet, aller loger chez Zachée ne pouvait se faire qu'au prix du scandale des bien-pensants. Il va manger et loger chez ce pécheur. Qui s'assemble se ressemble, dit le proverbe. Et un autre dit, une pomme pourrie fait pourrir tout un panier. Eh bien, Jésus ne pense pas de cette manière. Au contraire, pour lui, c'est celui qui est bon, qui peut rendre bon celui qui est sous l'influence du mal. S'il y a contagion, elle se fait dans le sens inverse de ce que l'on pense habituellement. C'est ce qui est sain qui peut rendre sain à nouveau l'être qui a été blessé, abîmé. Pour beaucoup de Juifs, l'être humain, parce qu'il est pécheur, ne peut que se tenir loin du Dieu saint. Pour venir au temple et approcher de l'autel, il faut en effet procéder à de nombreuses purifications. Rappelons-nous la réaction de Pierre devant la sainteté de Jésus. « Éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. » Ou encore la réaction de Moïse devant le buisson enflammé. « Déchausse-toi, car ce lieu est saint. » Ou encore Jacob, lorsqu'il voit en songe l'échelle mystérieuse qui relie la terre au ciel.
« Que ce lieu est redoutable !» Ce n'est rien moins qu'une maison de Dieu.
Un lieu redoutable lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu. Eh bien, voilà une vision que ne semble pas partager Jésus. Pour lui, c'est le Dieu de toute sainteté qui vient au-devant du pécheur, pour lui dire et lui manifester son amour. Être sauvé, ce sera donc accepter de laisser Dieu approcher de nous, de laisser Dieu venir et nous aimer. J'accepte d'être accepté, bien que je sois inacceptable, disait Paul Tillich. Aujourd'hui, par la présence de Jésus, Dieu vient demeurer dans la maison du pécheur. Imaginons toute la conversion de mentalité que cela suppose pour les contemporains de Jésus. Pour eux, le seul lieu où Dieu se tient est le temple de Jérusalem. Toute la vie est marquée par le lieu saint. Plus on veut être sanctifié, purifié, plus il faut s'approcher de ce lieu. Quand on montait au temple, c'était comme si l'on s'approchait de Dieu. Après avoir franchi les portes de la ville, on entrait d'abord sur le grand parvis, où même les païens pouvaient venir. Mais les païens, parce qu'ils sont considérés comme impurs, parce qu'ils adorent des idoles, ne devaient pas dépasser la barrière qui séparait le parvis de celui des femmes, et cela sous peine de mort. Le parvis des femmes était d'ailleurs une innovation du roi Hérode quand il a commencé la rénovation du temple. Il avait réussi à imposer ce parvis aux grands prêtres. Et au-delà du parvis des femmes, eh bien c'était le parvis réservé aux hommes. Et après, il y avait le parvis des prêtres, que l'on appelle le saint, où l'on offrait les sacrifices d'animaux. Et enfin, tout au cœur, le saint des saints. Là où seul le grand prêtre pénétrait une fois par année. C'était une salle pratiquement vide pour signifier que seul Dieu y était présent. Quel contraste avec l'attitude de Jésus qui descend lui-même sanctifier le logis du pécheur. Oui, pour lui, chaque demeure devient ainsi un lieu saint, le lieu où l'on peut rencontrer Dieu, le Père de toute miséricorde. N'est-ce pas la réalisation concrète de ce que Jésus disait à la Samaritaine ?
L'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité.
Oui, ce n'est pas l'architecture des édifices, aussi belle soit cette architecture, qui fait la sainteté d'un lieu. C'est la communion avec Dieu des cœurs de ceux qui habitent ce lieu. L'architecture des lieux sacrés devrait en effet être tout orientée vers les fidèles, parce que c'est eux qui en sont le centre, le cœur. Rien ne devrait séparer les fidèles entre eux, car tous sont également fils et filles de Dieu. Demandons-nous si l'architecture de la plupart de nos églises ne reproduit pas plus ou moins celle des temples du judaïsme. Cette architecture ne sépare-t-elle pas souvent les clercs des autres membres du peuple de Dieu? Ce que l'on appelait autrefois la table de communion n'était-elle pas davantage une barrière qui séparait le parvis des prêtres du parvis des fidèles? Or, aucune architecture n'est innocente et sans signification. Si nous voulons accueillir la présence de Jésus dans nos assemblées liturgiques, ne devons-nous pas signifier sa présence par la disposition même des lieux? Ce récit de Zachée devrait nous dire que toute communauté chrétienne doit être une maison d'accueil ouverte à tous, ouverte aussi bien aux bien-pensants qu'aux marginaux, ouverte aux gens engagés aussi bien qu'à ceux qui sont sans espérance, avec même une attention privilégiée pour les petits et les exclus. Le père Cocagnac disait que chaque chrétien doit se considérer comme un portier de la maison de Zachée. Vivre au cœur de la communauté chrétienne engage aussi à être présent à ses frontières pour inviter celui qui est étranger à la foi chrétienne à partager l'amour de Dieu et la fraternité. Et pour cela, le chrétien doit être présent au cœur du monde, partageant avec tous les espoirs, les misères, les combats. Il doit savoir s'émerveiller de ce que Dieu inspire dans chaque cœur, le cœur des croyants comme ceux des incroyants. Plutôt que de chercher sans cesse à dénoncer la paille qui est dans l'œil de l'autre. Si Jésus avait condamné Zachée, Zachée n'aurait sans doute jamais compris de quel amour Dieu l'aimait. Il peut certes arriver que des chrétiens manquent de courage pour témoigner de leur foi, mais un trop vif souci de pureté dans le témoignage ne devrait jamais devenir une sorte de condamnation de l'autre, comme si Dieu avait déjà séparé les bons des mauvais, avait séparé le bon grain de l'ivraie. La communauté des disciples de Jésus ne sera jamais une communauté de parfaits. Elle est au contraire la demeure du Père tout aimant, pour des fils et des filles qui se savent pardonner gracieusement, et qui pour cela sont remplis de reconnaissance et de joie. Reconnaissance et joie à cause de ce Père divin qui les aime gratuitement. Oui, la joie qui naît dans un être qui n'est plus tourné sur lui-même, un être qui ne ressasse pas ses échecs, un être qui n'est jamais satisfait de lui-même et de ceux qui l'entourent, un être dont le cœur ne suppute pas sans cesse ses mérites à être aimé de Dieu et des autres. Non, c'est la joie qui naît au contraire quand le regard se tourne vers Dieu et vers le prochain, quand on sait poser sur l'autre un vrai regard chargé d'attention, de compassion avec celui qui souffre, d'émerveillement pour ce qui est beau dans l'autre. C'est une joie intérieure dont Thérèse de Lisieux disait qu'on peut aussi bien la posséder dans une obscure prison que dans un palais. Sachons donc chanter notre joie de Dieu avec tous les Zachées de la terre. Il faut se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est vivant, il était perdu et il est retrouvé.
Pour ta gloire, Seigneur, accorde-moi la grâce de n'avoir qu'une souffrance, celle de faire souffrir, et qu'une joie, celle d'aider mes frères et mes sœurs à être moins malheureux. Accorde-moi une volonté rayonnante, afin qu'autour de moi personne ne se décourage, personne ne désespère. Accorde-moi de ne jamais juger sans preuve et de juger avec miséricorde. Accorde-moi de savoir écouter, de savoir deviner, de savoir pardonner. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110. Vous trouverez aussi ce texte sur Internet. Voici l'adresse de notre site, les www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal, en un seul mot et sans trait d'union.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, revenez-nous la semaine prochaine et en attendant, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.